des cons de la forêt.
Et salut à vous tous qui entrez dans la forêt. Bienvenue dans cette émission pleine de mousse, de lichens, d'arbres et de chants d'oiseaux. Vous êtes bien sur Antenne Doc, une radio pas en toc, dans l'émission du Petit Écho de la Forêt, une émission pour de vrai. Je serai aujourd'hui accompagné à la console par Charlotte, la reine des micros, des montages et des réglages. Il est temps pour vous de fermer les yeux et d'ouvrir grand vos oreilles, car vous allez rentrer dans l'antre des sous-bois. Là où le temps a moins d'importance, là où les feuilles bruissent à leur rythme, où les chevreuils se regardent juste pour s'interroger sur votre venue au beau milieu de cette nature sauvage et pleine de surprises. Prenez un moment pour vous ressourcer au milieu de cet écrin de verdure et venez tenter de reconnaître le chant de la huppe, du coucou, ou plus difficile, de la mésange à longue queue ou du roitelet triple bandeau. On vous a concocté un menu forestier de saison. Et donc aujourd'hui, de quoi allons-nous donc causer dans le poste ? Eh bien, on va parler de l'apparition des bourgeons sur les arbres, on abordera le pin d'Alep, un résineux méditerranéen bien sûr. Notre bébête des bois se trouve dans les milieux humides, il s'agit du sonneur à ventre jaune. Et avant tout cela, il y aura bien sûr les inforestières, on étudiera un peu d'autres choses, vous verrez. Robin des bois nous dira ce qu'il pense de la 5G, grrr. Et la rubrique un peu de lecture avec la biodiversité, la DFCI et la gestion des crises en forêt, on verra tout ça. Et pour agrémenter le tout, bien sûr qu'il y aura de la musique avec Calune et Ryan, des chansons engagées pour nous ouvrir l'esprit et nous encourager à aller de l'avant, enfin plutôt dans le bon sens. Et c'est parti. Mais avant tout, c'est le moment des fameux dictons pour de rire. Et le premier est de Francis Blanche. La ville écrase la forêt pour y installer son décor, sans songer au bruit que ferait le chant de tous les oiseaux morts. Ça, c'est beau, hein, c'est du Francis Blanche, c'est magnifique. Et puis un autre plutôt de saison. Si tu plantes tes haricots à la Saint-Didier, tu en auras plein le panier. Eh oui, la Saint-Didier, pensez-y, c'est dimanche, le 23 mai. Voilà, allez, c'est parti. Ah, notre ami le coucou qui s'énerve un peu et qui nous annonce les inforestières. Alors, la prochaine réunion sur le... Sur quoi d'ailleurs ? Eh bien, sur le martelloscope, j'ai oublié de l'écrire, ça se fera le 18 juin. Vous vous rappelez du martelloscope ? Charlotte nous avait fait un super reportage. Eh bien oui, donc pour se rappeler de la date, le 18 juin, c'est facile, c'est le jour de l'appel. Rendez-vous à 14h sur la place de la mairie de Fraissinet-le-Gelard. On vous fera découvrir cet outil au service des propriétaires forestiers pour vous aider à vous entraîner à marquer vous-même vos propres éclaircies. En fait, il s'agit d'une forêt dans laquelle on a marqué, mesuré tous les arbres. Et puis, on vous lâche dans une parcelle en vous disant, ben voilà, on va faire une éclaircie ici, quels arbres vous enlevez, quels arbres vous gardez. Et on récupère vos résultats après et on vous explique, on analyse un petit peu vos résultats pour savoir si vous avez enlevé trop d'arbres, pas assez, trop de bois mort, etc. etc. Très instructif, donc, réunion sur le martelloscope le 18 juin à 14h à Fraissinet-le-Gelard. Une autre réunion le 14 juin, donc juste avant, avec la Chambre d'agriculture et l'Alliance Forêt-Bois, la coopérative, pour évoquer la mécanisation forestière dans les peuplements de feuillus, alors surtout en éclaircie. C'est un projet au niveau national qui s'appelle MECAFOX. On aura l'occasion de parler donc des techniques d'abattage mécanisé, de la propreté des chantiers, de la façon dont c'est réalisé, dont c'est suivi également, quels sont les avantages, les inconvénients de la méthode, etc. etc. On a rendez-vous à 14h à Dégagnac pour visiter un chantier d'éclaircie dans un peuplement mélangé de chênes et de châtaigniers. Donc le rendez-vous, ce sera à côté de l'Azaillet, pour ceux qui connaissent. Et si vous voulez plus de renseignements, eh bien, vous m'appelez, moi, donc 06 76 98 51 71. Allez chercher un stylo, parce que je vous le redonnerai tout à l'heure. La réunion du PDM, plan de développement de massif sur la commercialisation des bois, avait été prévue le 21 mai. Elle n'a pas pu avoir lieu, et donc elle est reportée à l'automne 2021 toujours. Donc je vous donnerai plus d'infos après l'été, bien entendu. Autre info concernant le réseau pour les alternatives forestières, eh bien, ils font leur assemblée générale les 2 et 3 juillet à Moustet. Alors, Moustet, c'est dans les Landes. Et le thème de cet AG, c'est 2021-2051, comment agir aujourd'hui pour les forêts de demain. Et donc, c'est sur le site de l'association Alterland. On échangera avec des forestiers artisans engagés dans une foresterie basée sur les principes du vivant, en plein cœur du massif boisé des Pins des Landes de Gascogne. Ce sera une source d'inspiration pour imaginer les forêts de demain et quelles relations nous souhaitons nouer avec elles. Et donc, les inscriptions sont ouvertes pour cette assemblée générale du réseau pour les alternatives forestières les 2 et 3 juillet dans les Landes. Allez sur leur site internet et vous aurez toutes les infos. Après le succès de son premier webinaire sur l'école de la forêt, le fonds de dotation Forêt en vie, dont je vous ai parlé la dernière fois, créé par le RAF donc, organise un second webinaire le mardi 8 juin à 19h avec le réalisateur François-Xavier Drouet. Vous vous rappelez du film Le temps des forêts? Eh bien, ce webinaire aura pour thème Après le temps des forêts, le temps du débat. Et du coup, voilà, il y aura pendant 1 heure, enfin, il y aura une présentation du film et de ce qui s'est passé après les films. Et ensuite, il y aura 1 heure de débat avec les webinaristes. Je ne sais pas si on dit ça maintenant, mais bon, voilà. Donc, branchez-vous sur le RAF ou sur le site internet de Fonds de dotation Forêt en vie ou sur Hello Asso, qui est le site par lequel François-Xavier Drouet avait diffusé son film. Et vous pourrez vous inscrire à ce webinaire. Il restait une centaine de places ce matin quand j'ai regardé. Autre association qui défend la forêt, l'association Canopée, c'est Canopée Forêt Vivante exactement, qui organise en partenariat avec le SNUPFEN, donc c'est le syndicat majoritaire de l'ONF, 3 journées de réflexion en forêt. C'est aussi aujourd'hui, demain et le 30, mais c'est à Aulmay dans les Ardennes, sur le thème Épicéa et scolytes, quelle alternative à la couperase? Effectivement, vous savez, je vous en ai parlé la dernière fois, les épicéas sont tous en train de mourir dans ce secteur de France, dans le Grand Est, parce qu'ils ont chopé du mal avec le réchauffement, enfin avec les étés secs, les derniers étés secs. Les scolytes, donc des petites bestioles, se mettent dedans et après ça fait tout crever. Donc comme il n'y a que des épicéas sur des milliers d'hectares, ben forcément, il n'y a plus rien. Donc savoir s'il y a une alternative à tout récolter et recommencer avec une autre essence ou si on peut faire autrement. Moi, je sais qu'on peut faire autrement, mais il y a peut-être plusieurs solutions. Voilà donc l'association Canopée. Vous pourrez regarder si vous ne pouvez pas aller voir, vous irez voir sur leur site internet, il y aura les conclusions de ces 3 journées de réflexion. Un peu plus proche de nous, la LPO du Lot, donc de la Ligue de protection des oiseaux, organise des sorties nature. Alors notez bien dans vos agendas, puisque vous avez été chercher un crayon, à la découverte aussi des guêpiers d'Europe. Ça, ce sera le 5 juin à Castelnau-Moratier. Une chouette sortie avec Michel Marchal. Sortie papillon au Vigan le 12 juin. Ça doit être sûrement avec Tineke, qui est une spécialiste. Il y aura aussi le 22 juin une sortie papillon. Les hirondelles seront à l'honneur le 19 juin à Loupiac, à côté de Gourdon, là-haut, entre Gourdon et Perrac, hein, donc pour aussi une sortie. Et donc, il faut vous renseigner auprès du bureau de la LPO ou sur leur site. Et leur téléphone, c'est 05 65 22 28 et 12. Voilà pour les petites animations de la LPO, toujours très sympa. Et autre chose aussi dans le Lot, les rencontres Plantes et Compagnie, donc organisées par un collectif qui a été créé par le conseil départemental. Le 4 juin aura lieu aux Arcs une promenade commentée qui s'appelle Auprès de mon arbre, de 14h à 17h, avec Yann Clément du Centre régional de la propriété forestière, ça, celui-là je le connais, tiens, et Lionel Gramont du musée de Zadkine, parce que Zadkine était un amoureux des arbres. Et donc cette balade, ben, on associera en même temps ce qu'on découvre sur la balade et l'amour que portait Zadkine pour les arbres et comment il les a sculptés. On aura une belle petite après-midi. Donc ça, c'est sur réservation. Donc il faut appeler Lionel Gramont au musée Zadkine pour réserver. L'écomusée de Cuzal organise aussi le 27 juin, pendant la journée du patrimoine et des moulins, une journée qui s'appellera Arbres et compagnie, où j'aurai l'occasion aussi d'emmener un groupe en randonnée découverte autour du musée. Je pense que ce sera très bien. Et en plus, le 27 juin, à mon avis, il fera très beau. Je le sens. C'est comme ça. Il y aura du soleil. Voilà, dernière info, un MOOC sur la gestion forestière qui voit le jour et qui est dispensé par AgroParisTech. Enfin, qui voit le jour, qui a déjà vu le jour, puisque ça a commencé le 3 mai, mais vous pouvez vous raccrocher au wagon. Il y a 5 semaines de cours, donc par webinaire, et quel que soit le profil, pour autant qu'il y ait un intérêt pour la forêt et ses enjeux, eh bien, on peut aller participer à ce cours qui a une ambition de permettre une meilleure compréhension du milieu forestier et de ses pratiques et aussi bien entendu de ses controverses. Donc le MOOC sur la gestion forestière, allez voir ça, c'est AgroParisTech qui organise ça. Voilà, il suffit de vous inscrire et de participer et ensuite vous aurez un petit diplôme si vous répondez bien à toutes les questions. Allez, on fait une petite pause musicale pour tous les amoureux de la terre qui savent que l'on doit la protéger. Et pour ça, rien ne vaut la ZAD de Ryan. Allez, let's go, musique.
Sortir de ce système qui à la mort nous mène. Enfin sonner l'alarme, réagir par nous-mêmes. Choisir la vie à chacune de nos actions. Refuser leurs mensonges, leur dette, leur exploitation. Choisir la vie, stop à la surconsommation. De la dernière chance, nous sommes la génération. Le monde est une zone à défendre. Nous sommes de plus en plus nombreux à le comprendre. Oui, le monde est une zone.
Allez donc voir le clip, il y a des images fantastiques de notre belle planète, c'est vraiment très très bien fait. Le monde est une zone à défendre, je suis bien d'accord, tu as raison Ryan, c'est très bien de chanter ça. Allez! Notre ami le Pivert qui nous annonce le sujet du jour aujourd'hui, c'est « Les bourgeons apparaissent au printemps ?» Mais en êtes-vous si sûr ? Eh bien voilà, je veux vous commenter, vous donner lecture de l'idée reçue numéro 17 de l'arbre au-delà des idées reçues. C'est un livre de Christophe Drenou aux éditions de l'IDF, l'Institut de développement forestier, donc organisme du CNPF, donc c'est l'organisme de recherche du CNPF. Et donc il a écrit ce bouquin, Christophe, il y a déjà quelques années. C'est vraiment un super chouette bouquin avec une centaine d'idées reçues et à chaque fois il répond à des questions et il démonte les idées reçues ou il les confirme. Donc voilà, donc au printemps, les arbres se couvrent de bourgeons. Oui, mais... Et alors, est-ce que c'est vraiment au printemps ? Mieux vaut sans doute se fier au chant des oiseaux et au réchauffement de l'air pour annoncer le printemps que à l'apparition des bourgeons. Il a bien raison. Les arbres n'attendent pas cette saison pour se couvrir de bourgeons. Et non, ceux-ci sont présents et complètement formés dès la fin de l'été précédent. Et tous ne s'ouvriront pas au printemps suivant. Heureusement d'ailleurs, car il en résulterait un enchevêtrement inextricable de rameaux feuillés. Ce serait vraiment un gros bazar dans l'arbre. Alors donc, quand est-ce qu'ils se forment ces bourgeons, me direz-vous ? Eh bien, en fait, les arbres portent des bourgeons toute l'année. C'est dès la fin de l'été et en automne, une fois que les rameaux se sont quelque peu lignifiés, qu'ils se sont endurcis, que les bourgeons sont préparés pour l'année suivante. Un genre de préparatif à l'avance. Ils ont fabriqué des ébauches de feuilles, de branches et de fleurs, puis leur activité s'est arrêtée. Ils entrent en dormance jusqu'au printemps suivant. Tout est prêt pour le printemps qui va arriver. Leurs écailles imperméables et l'air emprisonné dans leurs poils les protègent du froid et du gel. Alors, jusqu'à un certain niveau, hein, parce que quand il y a des fortes gelées, notamment au printemps, si ça gèle, c'est parce que ça commençait en fait tout doucement à s'ouvrir et à se réveiller. Au printemps, avec l'augmentation de la température et de la luminosité, certaines hormones de la plante sont activées. Les bourgeons, ils entrent encore à nouveau en action, donc ils commencent à se réveiller. Hein. Leur méristème se réveille et recommence à fabriquer des cellules. Les ébauches de feuilles, de rameaux ou de fleurs grandissent et les écailles s'écartent pour laisser la place aux nouvelles pousses de la plante. C'est ce qu'on appelle le débourrement. Et d'ailleurs, à cette période de l'année, si vous vous promenez en forêt, vous trouvez des écailles de bourgeons par terre. Il y en a plein. Et forcément, elles sont plus visibles sur les gros bourgeons, comme celle du peuplier, par exemple. On voit très très bien les écailles par terre. Alors, où se forment les bourgeons sur l'arbre ? Eh bien, en fait, ils apparaissent uniquement au niveau des axes aériens. Donc, en haut, il n'y a pas de bourgeons sur les racines. Soit à l'aisselle des feuilles, on appelle ça les bourgeons axillaires. Soit à l'extrémité des axes, ça, c'est les bourgeons terminaux, qui sont donc responsables de la croissance en hauteur. Soit, enfin, à proximité des blessures. C'est ce qu'on appelle les bourgeons adventifs. Par exemple, vous avez élagué une branche, eh bien vous allez avoir des bourgeons adventifs qui vont apparaître au niveau de cette blessure. La ramification des racines, eh bien oui, s'exprime sans bourgeons. Ça se fait tout seul. Mais on a parfois l'apparition d'une tige sur une racine, c'est-à-dire l'émergence de ce qu'on appelle un drageon, qui commence par la différenciation d'un bourgeon adventif. Voilà. Chez les feuillus, les bourgeons axillaires sont systématiques et bien visibles. Certaines espèces, comme le noyer, présentent plusieurs bourgeons axillaires à l'aisselle de la même feuille. Pour les résineux, les bourgeons axillaires sont parfois apparents, mais bien souvent, ils ne sont que optionnels. Leur formation n'ayant lieu qu'en cas de nécessité. Alors, que contiennent ? Il y a quoi ? Oui, c'est vrai, il y a quoi dans le milieu d'un bourgeon ? Alors, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est prendre un petit scalpel et puis une loupe. Et au printemps, avant le printemps, vous prenez un bourgeon et vous le découpez en deux et vous regardez à la loupe qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très très intéressant, on voit plein de choses. Donc voilà, chez certaines essences, toutes les feuilles et fleurs d'une pousse annuelle sont présentes à l'état d'ébauche dans le bourgeon hivernal avant son débourrement printanier. On dit alors que la pousse est préformée. Tout est à l'intérieur, ça n'attend plus qu'à s'ouvrir et à partir. La croissance des pins est ainsi entièrement préformée, avec parfois même des pousses formées 2 ans avant leur expansion. Pour d'autres essences, comme le chêne par exemple, la pousse annuelle, au terme de son allongement, porte plus de feuilles que n'en contenait le bourgeon hivernal. Dans ce cas, il y a eu, en plus de la partie préformée, une partie élaborée après le débourrement et qualifiée de néoformée. Elle n'était pas spécialement prévue au départ, mais les conditions ont fait que ça a pu se développer comme il faut. Voilà, alors que deviennent les bourgeons ? Eh bien, certains bourgeons donnent naissance à des inflorescences ou à des axes feuillés. D'autres avortent accidentellement ou de façon programmée. Hein. Les bourgeons terminaux, par exemple, du platane, eh bien, ils meurent chaque hiver. Tous les hivers, ils meurent, ces bourgeons terminaux. On ne sait pas trop pourquoi, mais nombreux sont ceux qui restent aussi en attente, ces bourgeons. Alors, ces derniers se contentent d'une croissance ralentie afin de suivre chaque année la progression en épaisseur de l'arbre et de rester ainsi juste sous l'écorce. En fait, ils sont en attente. Tout axe aérien, donc le tronc, les branches, les rameaux, peut donc être perçu comme un empilement de zones ramifiées visibles qui est visible et alternant avec des stocks de bourgeons cachés, en fait. Les bourgeons sont là en cas de besoin. Ce réservoir de bourgeons représente l'assurance-vie, ça c'est vraiment le bon terme, de l'arbre. À tout moment, ils sont prêts à venir suppléer les parties endommagées en produisant ce qu'on appelle des suppléants. Alors certains appellent ça aussi des gourmands, c'est-à-dire que l'arbre, quand il a un problème, au lieu de mourir bêtement, si je puis dire, il va fabriquer des gourmands. C'est d'ailleurs une autre idée reçue du bouquin qui s'appelle « Les suppléants font dépérir les arbres », ce qui est entièrement faux. Au contraire, bien au contraire, les suppléants, c'est-à-dire les gourmands, ils sont là pour assurer justement un mauvais fonctionnement qui a pu apparaître dans l'arbre. Par exemple, là, cette année, vous avez vu début avril un fort gel. Donc on a bien vu, ça a gelé toutes les fleurs des arbres fruitiers, un peu les vignes aussi, etc., les noyers. Eh bien, il y a certains chênes qui ont entièrement gelé parce qu'ils avaient déjà commencé à débourrer, puisque les quelques semaines d'avant ou quelques jours, il y avait eu du beau temps. Et donc là, ils ont du mal à repartir parce que ils sont obligés d'aller chercher les bourgeons qui étaient prêts pour l'année d'après, ou qui étaient prêts, en cas de besoin, à subvenir aux besoins imminents en photosynthèse de l'arbre. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les suppléants. Donc ces arbres-là qui ont gelé sur des bourgeons qui étaient ouverts, ils vont avoir des suppléants et ils vont pouvoir s'en sortir dans la vie. Voilà, j'espère que je vous ai amené quelques renseignements supplémentaires sur les bourgeons qui donc n'apparaissent pas au printemps comme on pourrait le penser, mais bel et bien à l'été et l'automne d'avant le printemps. Voilà, merci à Christophe Drainou donc pour ce super bouquin, L'arbre au-delà des idées reçues. Nous voilà maintenant, on retourne faire un tour dans la musique et avec des gens qui chantent de façon engagée. C'est le groupe Calune, avec un K, qui viendra ce samedi à Nestier, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour le week-end de Touche pas à ma forêt. Eh bien, merci à eux de m'avoir fait découvrir ce groupe, parce que c'est vraiment chouette. On commence par le morceau Les Fleurs de la Résistance, un morceau créé pour la tournée d'Alternativa, je vais y arriver, et on en écoutera d'autres, j'espère qu'ils viendront d'ailleurs dans Lot, on va en parler au doc pour voir s'ils peuvent les faire venir. Allez, c'est promis. Allez, c'est parti.
Soin de notre terre parce qu'on est bien les seuls à pouvoir le faire. On y met beaucoup d'amour au nom de toutes ces choses qui nous entourent. On se bat pour un avenir meilleur. On fait ce qu'on peut, ce qui nous semble bon. Pardon si on fait des erreurs, on pouvait pas rester dans l'inaction. Faudra en grimper des étages, en inventer des solutions. En placer le béton par du végétal. Le vert est la couleur de la révolution.
On se bouge, on se lance, on vise l'autosuffisance.
On passera des nuits debout et des journées à genoux dans les champs. On apprendra de nos doutes toujours dans le partage et dans l'échange. Ensemble, on s'en ira le long des routes, montrer comment la nature se défend. Si on refuse de le faire pour nous, qu'on le fasse au moins pour nos enfants. Parce qu'on veut pas être complice, faut bien qu'on puisse faire pousser des astuces, s'extraire de ce qui nous divise, faire notre part et 100 fois plus, sans jamais oublier nos piliers. D'un côté je m'oppose, de l'autre je propose. Qu'il semble que nous sommes les derniers à pouvoir faire changer les choses.
On se bouge, on se lance, on vise l'autosuffisance. Et on ose, on propose un profond changement des choses. On se bouge, on avance dans la désobéissance. Et on sème en échange les fleurs de la résistance. Les fleurs de la résistance. Les fleurs de la résistance.
On va nettoyer les plages et faire passer le message pour la lutte anti-spécisme et contre l'anthropocentrisme. On veut protéger. protéger les semences, remettre en question la croissance, faire interdire les pesticides, mais préserver les zones humides. On montre ce qu'on a dans le ventre, on met l'écologie au centre, le cœur plein de bienveillance, que notre combat ait un sens, pour l'accueil de l'étranger, pour faire pousser des forêts, pour une justice climatique, un changement de paradigme.
Ah yes, merci Paris et merci Douel aussi et merci Cahors et merci Le Lot. On se bouge, on se lance, on propose, on sème les fleurs de la résistance. Yes, c'était donc Calune, ça fait du bien. Allez, c'est parti. Le Loriot qui chante bien en ce moment, c'est chouette, on l'appelle et il nous répond. Nous annonce la bébête des bois, aujourd'hui c'est le sonneur à ventre jaune. Avec un nom pareil, c'est quand même joli. Bon, le nom latin, hein, pour l'interrogation de fin d'année, Bombina variegata. Vous en rappellerez, bien entendu. Qu'est-ce que c'est donc que cette source-là, un sonneur à ventre jaune? Eh bien, il n'y a aucune confusion possible dans la région, mais il faudrait savoir que, qu'est-ce que c'est quand même. Eh bien, c'est un petit crapaud qui mesure en moyenne 4 à 5 cm à l'âge adulte, c'est vraiment pas très gros. On peut aisément le reconnaître à ses yeux globuleux, positionnés sur le dessus de la tête, un peu comme un alligator. Et à ses pupilles qui sont en forme de cœur ou triangulaire. Ça, c'est vraiment très particulier à cette espèce. Son dos est plutôt d'un aspect terreux, on va dire, couleur brun, gris à olivâtre, et couvert de petites verrues légèrement cornées. Ça lui confère un excellent camouflage. Sa principale caractéristique est néanmoins sa face ventrale jaune, pouvant tirer sur l'orangé. C'est vraiment très très pétant comme jaune. Presque de l'orange techno, agrémenté de taches noires, plus ou moins même bleutées parfois. Le motif formé par les taches ventrales est propre à chaque individu, et vraiment différent sur chaque individu. S'il se sent agressé, le sonneur adopte une posture de défense originale. On appelle ça la lordose lombaire ou le réflexe Duncan. Cette position permet de montrer une partie de ses couleurs vives, pattes repliées sur le dos, pour prévenir les prédateurs de la toxicité de l'amphibien. Ah, dis donc, quelle technique! Il n'y a pas de dimorphisme sexuel notable, les mâles sont semblables aux femelles, donc, à l'exception peut-être un peu de l'intérieur de leurs pattes antérieures, mais bon, ça, il faut vraiment y aller voir de très près. Les mâles chantent en gonflant légèrement leur gorge, leur chant fait un ou-ou plaintif, c'est je crois que c'est un truc un peu comme ça. Voilà. Et donc, peu puissant, c'est très difficile à l'entendre. Il faut vraiment être à quelques dizaines de mètres pour pouvoir le capter. Et parfois, il peut émettre d'autres sons, tels que des caquettements, mais c'est un peu plus rare. Voilà. Où est-ce qu'on va trouver ce sonneur à ventre jaune? Eh bien, il affectionne particulièrement les réseaux de points d'eau stagnantes, peu profonds, généralement assez bien ensoleillés et souvent temporaires. Donc il peut ainsi s'installer dans divers habitats comme des ornières, des fossés, des mares, des vasques. En Midi-Pyrénées, on le retrouvera plus volontiers dans des systèmes prairiaux, dans des zones de sources et de suintements piétinées par le bétail, plutôt que dans les systèmes forestiers, mais quoique ça commence à venir, où il est fréquemment rencontré dans d'autres régions. C'est une espèce pionnière, le sonneur à ventre jaune, qui peut également s'installer dans les milieux perturbés, donc c'est effectivement ça. Nous, on arrive à le retrouver dans des ornières, par exemple, qui ont été faites par des tracteurs au milieu des bois. Et ben voilà, on peut dire que ça fait des dégâts, peut dire plein de choses, c'est vrai, mais ça provoque des minimars qui sont temporaires et qui donc peuvent aider à la reproduction de ce petit crapaud. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre et c'est plutôt pas mal. Donc en début de printemps, eh bien, le sonneur quitte son site d'hivernage pour rejoindre les points d'eau où il se reproduira. Flottant dans sa flaque, les pattes écartées, les yeux et les narines dépassant de la surface, tel un hippopotame miniature, il attend. Et les femelles arrivent quelques semaines après les mâles. Ensuite, elles déposent elles-mêmes leurs œufs en petites grappes, sur des supports aquatiques proches de la surface, par exemple des petites racines, des brindilles, même de la végétation aquatique. Les pontes sont fractionnées dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il peut y avoir plusieurs pontes dans la même année en fonction des précipitations. Ce qui est plutôt pas mal par rapport à la prédation, comme ça, ça lui permet d'avoir des pontes à des endroits différents. Alors c'est assez rapide, hein. Les têtards éclosent vraiment en une semaine environ et subissent forcément une très forte mortalité qui est due à quoi ? Souvent à l'assèchement de ces fameux points d'eau. Il aime bien les points d'eau temporaires, mais forcément les points d'eau temporaires, ils sont pas toujours suffisamment humides longtemps pour assurer le développement des têtards. Donc très peu de juvéniles atteignent la maturité sexuelle qui est aux alentours de 3-4 ans. Mais une fois adulte, la longévité est assez importante quand même pour cet amphibien. Le sonneur, il peut vivre jusqu'à une dizaine d'années à peu près. Donc voilà pour cette petite bébête. La distribution de ce sonneur en France est principalement continentale. Et en Midi-Pyrénées, il est en limite d'aire de répartition. Et il est pour l'instant connu que du côté nord-est du Lot. Ah, c'est chez nous ça. Exception faite de deux stations dans le Ségala, tous les sites où il a été trouvé se situent sur des terrains argileux du Jurassique, c'est ce qu'on appelle la Limargue là-haut. Cette géologie particulière, avec de la rétention d'eau, combinée avec des pratiques agricoles du type élevage bovin, eh bien, ça constitue un potentiel d'habitat favorable à cette espèce. Cette espèce de bande d'argile continue jusque dans le département de l'Aveyron où la présence du sonneur est soupçonnée. Et je crois même qu'il a été déjà trouvé là-bas. C'est une espèce qui est plutôt menacée parce qu'elle connaît un fort déclin pratiquement partout en France. En Midi-Pyrénées, on n'a quasiment pas de recul parce qu'on manque de données un peu anciennes. Mais son absence inexplicable ou de très faible densité sur des sites où a priori c'est plutôt favorable à sa reproduction, ça nous laisse à penser qu'il est en régression dans la région. Pourquoi ? Parce qu'il y a fragmentation des habitats, mise en culture des prairies, on fait des routes un peu partout, on détruit des micro-zones humides, ou même des zones humides toutes entières, qui sont forcément favorables à la reproduction. Par exemple, on fait des conversions en grands étangs, on draine, on capte la flotte, pour faire des captages d'eau pour arroser les champs, par exemple. Ou alors, il y a des populations qui sont limites d'aire de répartition, et donc naturellement un petit peu plus fragiles. Donc voilà, afin de mieux comprendre ce déclin et d'enrayer les menaces qui pèsent sur le sonneur à ventre jaune, il y a eu carrément un plan national d'action sur cette espèce. Et ça a commencé en 2011. Et depuis 2013, il y a d'autres organismes comme le Conseil départemental, les associations naturalistes du Lot, donc la LPO, le syndicat mixte du bassin Rance-Sélé, etc., qui se sont greffés à ce projet pour essayer justement de continuer à encourager les agriculteurs, les forestiers, les particuliers à conserver les zones où il y a des engorgements temporaires, des choses comme ça, pour favoriser la reproduction de ce fameux sonneur à ventre jaune. Donc voilà, si vous en repérez un, vous aurez de la chance parce qu'il se camoufle très très bien, sauf si vous lui faites peur et qu'il se met à l'envers pour vous faire voir son joli ventre jaune et ses taches bleutées. Voilà pour le sonneur à ventre jaune. J'espère que vous le croiserez un jour. Allez, une autre pause musicale avec toujours le groupe Calune qui recrute pour s'unir, pour changer le monde. Allez, let's go.
Mesdames et messieurs, approchez, approchez. On recrute. Le moment est venu que nous nous réveillons, que nous nous élevions tous ensemble pour la nature, pour l'amour de nos animaux, pour l'amour de nos plantes et de tous nos végétaux. Mais tous unis, nous sommes un. Nous pouvons, nous voulons, nous allons changer le monde.
On recrute des glaneurs de poubelles, préparateurs de manifs, des crieurs de ruelles et des bloqueurs de périphes, des faiseurs de soupes populaires, esprits créatifs, penseurs libertaires, des paysans révoltés, restaurateurs véganes, et même des dresseurs de tentes au bord du canal. On recrute des ouvreurs de cages, des gens qui ont dans le cœur la notion de partage, des créateurs de mode sur coton équitable, chanteurs qui jouent gratos sur violon et guitare, toute personne animée d'un amour véritable, ça sera long et délicat. On a besoin de vous, on veut changer le monde, on a besoin de fronde, de graines et de cailloux, on a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond, on a besoin d'amour pour tenir le coup, on a besoin de vous, on veut changer le monde, on a besoin de fronde, de graines et de cailloux, on a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond, on a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute des passionnés, des oiseaux, des pêcheurs qui respectent ce qu'ils sortent de l'eau, des vendeurs en AMAP, des producteurs locaux, l'apiculteur est seul face à Monsanto. On recrute des sourires et des camarades, capables dans le pire de se donner la collade, vignerons, rebelles ou banquiers repentis, des zadistes qui se dressent contre les projets inutiles, des lanceurs de bombes de graines, des hackers par centaines, des faucheurs volontaires, des journalistes, des vrais, qui vont chercher l'information et refusent de se la faire dicter. On a besoin de vous, on veut changer le monde, on a besoin de fronde, de graines et de cailloux, on a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond, on a besoin d'amour pour tenir le coup, on a besoin de vous, on veut changer le monde, on a besoin de fronde, de graines et de cailloux, on a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond, on a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute de belles âmes pour l'accueil des réfugiés, et des voleurs de chaises à la BNP, des protecteurs des grands singes, d'une nature sans défense qui dénonce un tourisme à dos d'éléphants, des lanceurs d'alerte et parfois de cailloux. On recrute des poètes, des concepteurs de yourtes, clowns activistes, humoristes engagés, maraîchers urbains dans des jardins partagés. On a besoin de sages qui connaissent les plantes, des tenteurs d'une médecine différente. On recrute des peintres au grand cœur pour colorier le monde de toutes les couleurs. On a besoin de vous, on veut changer le monde, on a besoin de fronde, de graines et de cailloux, on a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond, on a besoin d'amour pour tenir le coup, on a besoin de vous, on veut changer le monde, on a besoin de fronde, de graines et de cailloux, on a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond, on a besoin d'amour pour tenir le coup.
J'espère que ça va vous donner le goût des choses et surtout de vous engager pour vous, pour le monde. Merci à Calune. Allez, c'est parti. Le Pouillou Vélos nous annonce une plante d'ici, c'est un arbre d'ici d'ailleurs. Le pin d'Alep aujourd'hui, Pinus alepensis. J'espère que vous vous en rappellerez. Voilà, ce pin méditerranéen, on l'appelle aussi le pin de Jérusalem ou le pin blanc. Il porte mal son nom parce qu'en fait on l'a appelé pin d'Alep, on ne sait pas pourquoi. Alepensis, ça veut dire qu'il vient de la ville d'Alep, mais en fait il n'y a pas du tout de pin de ce genre en Syrie, donc c'est une fausse appellation en fait. Mais bon, voilà, c'est son nom. L'arbre atteint à peu près 20 à 22 mètres de haut, donc il peut aller, ce qui est assez étonnant pour un arbre méditerranéen, je vais y arriver. Mais par contre, il est assez longévif, hein, on peut l'emmener jusqu'à 200 ans largement. Si on lui fout la peau, hein, bien entendu. C'est une espèce qui est disséminée par le vent, pollinisée et disséminée par le vent. C'est une post-pionnière nomade dont la dispersion, la germination sont favorisées par le feu. Eh oui, quand il y a vraiment beaucoup, quand il y a des incendies dans le sud, et notamment quand j'étais en poste dans le Gard, dès qu'il y avait un incendie, les années d'après, vous aviez du pin d'Alep à touche-touche, mais vraiment à touche-touche, hein, qui réapparaissait. Parce qu'en fait, le feu ouvre les cônes et déclenche la chaleur déclenche la germination de la graine. Voilà, c'est une espèce voisine d'un autre pin qui s'appelle le pin Brucia aussi, qui se ressemble un peu. Le tronc est souvent tortueux, les branches sont plutôt étalées, la cime est assez arrondie, enfin, quoique dans le jeune âge, c'est plutôt triangulaire, comme un sapin un peu. Après, ça s'arrondit assez vite et puis ça devient aplati au sommet, en fait. Voilà, donc l'écorce est d'un gris, et d'abord, au tout départ, d'un gris argenté, puis ensuite, avec l'âge, elle se crevasse avec des crêtes allongées grisâtres. Voilà, les rameaux de l'année sont faiblement sillonnés et gris clair. C'est assez souple, presque élastique comme rameau. Les bourgeons sont cylindriques, assez allongés, et pourvus d'écailles brunes qui sont pas résineux, qui sont pas collants. Voilà. Et les aiguilles, sont disposées par deux. Elles font 6 à 10 cm à peu près, elles sont plutôt molles, assez lisses et assez agréables au toucher. Et elles sont vert jaunâtre, c'est-à-dire un vert un peu pâle. D'ailleurs, on le reconnaît assez bien dans le paysage. Si vous faites l'autoroute qui va de Montpellier à Marseille, on va dire, vous en verrez certainement de nombreux. Voilà, les cônes sont de taille de moyenne, on va dire 8 à 12 cm. Ils sont soit tout seuls ou soit verticillés à plusieurs sur la même branche ou à un endroit du tronc au départ. Ils sont portés par un pédoncule épais et ils peuvent persister sur l'arbre plusieurs années avant de tomber au sol. Voilà, donc les graines sont longues de 7 mm et présentent une aile qui est 4 fois plus grande, voilà, qui leur permet de pouvoir se déplacer, se disséminer par le vent. C'est assez commun dans toute la région méditerranéenne, hein, jusqu'au sud du Dauphiné, où elle est plutôt quand même assez rare. Elle n'est pas naturelle en Corse, où elle est encore peu fréquente, mais par contre, ça ne dépasse pas 900 mètres d'altitude, hein, ça n'aime pas trop le froid dès que ça commence à grimper. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une circum-méditerranéenne, hein, elle aime bien être sur le pourtour de la Méditerranée, mais on la trouve plus particulièrement au centre et à l'ouest de la Méditerranée. Voilà, c'est une espèce assez thermophile, hein, elle aime vraiment bien la chaleur, elle a besoin de lumière importante, elle est très très résistante à la sécheresse, c'est pour ça qu'on la trouve à cet endroit, tu m'étonnes, parce qu'elle sait très bien contrôler en fait sa transpiration, et donc elle ne perd pas beaucoup d'eau. Voilà, donc elle arrive à s'adapter dans des climats où il y a entre 400 et 1000 mm d'eau par an. Voilà, ça supporte jusqu'à 6 mois de période sèche, donc c'est quand même c'est une des espèces les mieux adaptées à la sécheresse. Voilà, elle a besoin de 11 à 19 degrés de moyenne annuelle, c'est ce qui caractérise les essences thermophiles. Et par contre, elle a une faible résistance au gel, hein, donc si c'est en dessous de moins 2, ça commence à vraiment pas lui plaire, voire à la faire disparaître. Ça a une très large amplitude en ce qui concerne le substrat, hein, c'est-à-dire qu'elle peut pousser aussi bien sur des terrains acides que basiques. Donc voilà, les régénérations se développent sur des substrats friables avec présence d'éléments fins, donc avec un petit peu d'humidité forcément pour la survie de la germination. Donc c'est une xérophile thermophile, vraiment une essence qui aime le chaud, quoi. Voilà, elle est fréquente et vigoureuse dans la série du pin d'Alep à la base du méso-méditerranéen, nous disent-ils. Oui. Alors, on la retrouve avec du caroubier, on la retrouve avec du chêne liège, du chêne vert. Donc, vraiment dans des formations avec des espèces très, 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 très méditerranéennes. Voilà, donc la germination est favorisée par le passage des incendies dans divers milieux, donc comme les garrigues, les maquis à calune, les cistées ou les pelouses. Voilà, donc c'est étonnamment pour un résineux, c'est un très bon bois de chauffage, assez réputé. C'est un bois plutôt blanc avec un cœur un peu roux clair. C'était employé pour les petites charpentes, des pilotis, la fabrication de caisses et d'emballages. Et même on a retrouvé des traces d'utilisation en charpente marine. Bon, c'est un bois qui est quand même utilisé en Méditerranée depuis plus de 3000 ans, hein, donc... ça a perdu un petit peu de son intérêt ces dernières années, mais ça a été relancé en 2017, je crois. On a commencé à se rendre compte qu'on pouvait faire autre chose que de mettre ce pain à la palette ou au papier. Et finalement, il commence à y avoir des petites... on commence à réutiliser ce bois pour faire de la menuiserie, et c'est plutôt intéressant. Voilà, l'écorce, les aiguilles, les cônes peuvent donner une teinture. Ça peut être du jaune, du brun, du gris ou du noir. L'écorce est très riche en tanins. Elle servait à préparer les pots autrefois. Anciennement, c'était un arbre aussi qui était gemmé comme le pin maritime. Et donc, ça servait à la production d'une essence de térébenthine qui était plutôt abondante et relativement appréciée. Donc, le feuillage est hautement inflammable. Donc, un élagage à 3 mètres diminue la combustibilité des peuplements, forcément. Et c'est vrai que c'est impressionnant quand il y a un feu là-dedans. Ça fait des flammes vraiment impressionnantes. Il a un feuillage clair et c'est à l'origine de formations fortement imbroussaillées, forcément, qui sont sous lui, quoi. Comme il y a un feuillage clair, il y a de la lumière qui arrive en dessous et donc il y a plein d'autres végétations qui s'installent. Et c'est pour ça que c'est dangereux en Méditerranée, ce genre de peuplement, par rapport au risque incendie. Donc on a tendance à nettoyer le sous-bois, surtout, mais bien sûr, aux abords des routes et des lieux fréquentés. Donc voilà pour le fameux pin d'Alep. Donc je n'hésiterai pas à vous redonner des renseignements concernant le renouveau du bois de pin d'Alep, donc cette essence purement méditerranéenne. Voilà, donc c'est issu bien sûr de la flore forestière région méditerranéenne de 2008. Voilà, rien ne m'appartient. Eh ben oui, c'est tellement vrai. Écoutez ce groupe, encore une fois, c'est toujours Calune, qui nous encourage à comprendre le bien commun des choses, avec une chanteuse Nolwenn qui a une super voix, mais celle-là, c'est pas la même que l'autre. Hein. Voilà. Allez, à vous de jouer, c'est parti.
Alors il vient de quel horizon? Le sable qui cimente les murs de nos maisons. Il a poussé dans quel champ? Le coton avec lequel on fait nos vêtements. Et quelle source a-t-on asséché pour que de l'eau puisse couler de nos robinets? Dites-moi, quel peuple foulait ces terres avant que furent dessinées les frontières? J'ai mal à ma planète. Nolwenn, j'ai mal à ma planète. Et ce n'est sans doute qu'un détail, mais on a remplacé la jungle par des enclos à bétail. Et je le vois qui s'arrête aux chats et aux oiseaux. Notre amour pour les animaux, pourtant, tout ce que je possède vient de là, du cœur de la terre ou du fond des océans. Rien ne m'appartient ici-bas, sauf le moment présent. Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, ni le temps. Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais juste le présent.
Rien n'est à moi, tout le rien de la terre. Petite plante assoiffée de lumière.
Rien ne m'appartient.
Si nuit, si seul, perdu dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère?
Qu'avez-vous fait à ma planète? Mais qu'avez-vous fait à ma planète mère? Combien de carrières et d'usines? À quelle profondeur va-t-on creuser la terre? Dans les tunnels de quelle mine? Pour les bénéfices de combien d'actionnaires? Quelle fleur, quel arbre ou quelle forêt encore va-t-on raser pour mon confort? Quel fleuve, quelle mer pour me nourrir? Quel coin de paradis reste-t-il à détruire? Pour que je puisse allumer la lumière, quelque part les hommes ont coupé la rivière. Mais quel barrage à notre folie! Et qu'est-ce qui fait pousser notre manque d'empathie? On emporte avec nous des millions d'espèces. On se bat contre tout sauf contre nous-mêmes. Par la compétition, c'est comme ça qu'on régresse. On se sauve si on s'aime. Elle est belle, notre planète ronde. Mais quand l'arbre est coupé, c'est un morceau de nous qui tombe.
Rien n'est à moi, tout le rien de la terre. Petite plante assoiffée de lumière.
Rien ne m'appartient.
Si nuit, si seul, perdu dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère?
Qu'avez-vous fait à ma planète? Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais le temps. Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais juste le présent.
Quelle fleur, quel arbre, quelle forêt encore va-t-on raser pour mon confort? Quelle fleur, quelle mer pour me nourrir? Quel coin de paradis reste-t-il à détruire? Quelle
planète. Mais qu'avons-nous fait à notre planète mère?
Ah ah ah! Quelle forêt va-t-on raser pour mon confort? Ah ah, responsable anonyme de certaines pratiques forestières. Merci Calune d'avoir pu placer ça dans cette belle chanson. On aura l'occasion d'en reparler, mais je vous remettrai un dernier morceau à la fin, c'est promis. Allez, c'est parti. Ah ah ah! Le corbeau qui nous annonce le coup de gueule de Robin des Bois. Et aujourd'hui, bon, je crois que je peux dire ce mot-là à la radio, hein, parce que c'est une radio libre. Et il a intitulé son papier 5G mon cul. Je pense que c'est inspiré un peu de Volinsky, ce titre. Alors voilà ce qu'il nous dit, Robin des Bois. Il y en a marre de la fausse modernité, des ondes et de la connerie humaine. Je suis effaré de voir se développer le réseau de la 5G tout autour de nous sans qu'on ait rien à y dire, avec de fausses informations qui circulent, émanant même de l'État, avec un petit fascicule tout beau et tout gentil, et plein de bourdes et d'infos-mations. Ah, c'est pas mal ça, hein, au lieu d'information, infos-mation, c'est pas mal. Déjà que la 4G était dangereuse pour la santé humaine, et même sûrement pour les abeilles et les oiseaux qui sont perturbés par les ondes dans leurs déplacements, eh bien ils en remettent une couche avec cette 5G qui va émettre 10 fois, 100 fois plus que la 4. Et qui, n'arrivant pas à passer à travers des obstacles, va devoir être déployé avec des milliers d'émetteurs en plus. Ce qui laisse donc à penser que nous serons inondés d'ondes de part et d'autre et constamment. Ça me met en colère. Et on ne connaît même pas les effets sur le corps humain, les animaux, les plantes. Les seuls essais non reconnus qui ont été réalisés laissent pourtant planer un très gros doute puisque certains insectes ont littéralement grillé sous l'effet de l'exposition à ces ondes. Laissez-nous vivre en paix. Abat cette technologie pleine de mauvaises surprises et qui n'est pas obligatoire. Ah mais si, j'oubliais. Le frigo connecté, la voiture connectée, la fusée, le biberon, le vibromasseur, le sèche-linge, la cafetière, les rideaux de protection, ou les volets comme vous voulez, les montres, les téléphones, bien sûr les téléphones qu'il faudra changer parce qu'ils sont incompatibles avec cette technologie, les ordinateurs et que sais-je encore. Que de créations de besoins qui n'en sont pas et dont le monde pourrait bien se passer. Les fréquences passeraient de 6 MHz à 120 MHz, on appelle ça les supra-hautes fréquences. Mais les ondes seront plus courtes, c'est pour ça qu'il faudra plus d'antennes, parce que ça ne passera pas à travers les choses, pour être tous, bien sûr, interconnectés. En 2017, 170 scientifiques ont demandé à l'ONU de faire un moratoire en attendant d'en savoir plus et d'étudier la chose. Certains de ces chercheurs évoquent même des risques de cancer, de dommages génétiques, de troubles neurologiques, d'impact sur le système reproducteur, de stress cellulaire, et j'en passe et des meilleurs, mais ils n'ont pas été écoutés. Je sens bien qu'il va falloir un jour que je ressorte mon arc et mes flèches. Il est en colère, mon ami Robin des Bois, et je pense que ses inquiétudes sont bien fondées. Renseignez-vous sur la 5G et allez sur le site Ondes Positives. C'est vraiment un site qui a été créé dans le Lot, Ondes Positives. Il y a plein d'infos et surtout ne cédez pas à la tentation du modernisme malsain. Gna 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 gna. Allez. Notre ami la Tourterelle nous annonce un peu de lecture. Forêt de France, le journal de France Silva, numéro 643, nous parle d'emploi et de formation dans le domaine de la forêt pour donner le goût du travail en forêt. Il y a plein de petites infos, c'est plutôt un dossier très bien fait. Pour essayer aussi de voir les différents métiers qui sont exercés et auxquels peuvent prétendre les jeunes qui vont à l'école, qui sortent à l'école, de l'école pardon, ou qui cherchent une formation. Le Forêt Entreprise numéro 257, alors lui, il est super intéressant, avec son titre « Forêt et société ». Il était temps quand même que quelqu'un s'y colle. Et donc, c'est Philippe Riouniver, un collègue qui a vraiment fait des très bons articles, qui fait des articles qui sont faits sur les causes du mécontentement de la société civile face aux affres de certaines exploitations forestières. Et moi, je pense qu'il était grand temps et important de communiquer là-dessus pour expliquer justement pourquoi on coupe des arbres, comment on les coupe, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est à déplorer, etc., etc. C'est plutôt bien foutu et je pense que ça peut faire évoluer les choses. Et j'espère dans le bon sens. Un petit guide qui est sorti aussi chez nous à l'Institut de développement forestier, c'est l'édition numéro 2 qui s'appelle « Guide de gestion de crise sanitaire en forêt ». Ça s'appuie sur un triptyque, hein, gestion, surveillance et recherche. Donc depuis 2010, de multiples crises sanitaires se sont multipliées au gré des conditions climatiques défavorables pour les forêts. et de l'apparition et de l'explosion localisée de bio-agresseurs, chacune spécifique dans son ampleur, ses enjeux, sa dynamique et sa gestion. Donc tout ça, ça désorganise la gestion forestière courante pendant un certain nombre d'années. Donc cette nouvelle édition va apporter un peu le retour d'expérience des crises passées pour voir ce qu'on peut faire et comment on peut le faire et ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Voilà, ça coûte 12€, ça fait 180 pages et c'est aux éditions de l'IDF. Un autre bouquin qui s'appelle Biodiversité, un nouveau récit à écrire. Donc ça, c'est sur le déclin forcément de la biodiversité, hein, des informations plus accessibles, étayées par les acquis les plus récents de la recherche scientifique qui soulignent l'importance de respecter ensemble l'environnement. Donc c'est plutôt pas mal foutu et c'est aux éditions QAE, ça fait 24€ et 200 pages. Et puis un dernier petit bouquin qui s'appelle... Ah non, deux. Échec au feu de forêt, étude sur la défense des forêts contre l'incendie. Donc un bouquin qui est aux éditions L'Harmattan, donc qui nous parle de défense des forêts contre l'incendie, et d'histoire de cette défense, comment ça marche, pourquoi ça marche pas dans certains coins, etc. Donc plutôt bien fait, plein d'infos. Et puis un dernier très local qui s'appelle Le Quercy, terre d'orchidées. Alors là, celui-là en plus, il est pas cher. Hein. Il y a 10€, il y a 168 pages, c'est très bien fait, il y a des super photos. C'est un atlas qui présente la répartition et les caractéristiques des 48 espèces d'orchidées observées dans le Lot au cours des 20 dernières années. Donc vous y trouverez pour chaque espèce une description de la plante et de son habitat, sa répartition géographique, sa période de floraison et de belles photos qui facilitent bien sûr l'identification. C'est un ouvrage qui a été réalisé par le Parc naturel des Causses du Quercy avec la Société française d'orchidophilie d'Auvergne et la Société des naturalistes du Lot. Donc voilà, un très beau petit bouquin que vous pouvez vous procurer directement au siège du parc à la Bâtine Murat, donc le Quercy, terre d'orchidées. Ouh là là, mais je vois que le temps passe et que vous avez envie de retourner dans le jardin ou de partir dans les bois. Mais allez-y, à la découverte de votre monde, de notre monde, du monde, si mystérieux et beau à la fois. Observez la belette, les blaireaux, les syrphes, les vers de terre, les mousses, les oiseaux, les arbres dans leurs aventures printanières et délectez-vous de ce parfum d'ivresse naturelle de l'humus forestier. Je vous dis à tout bientôt et surtout, prenez le temps de prendre votre temps. Et comme disait toujours mon ami Léon, bon tout. Allez, ciao et je vous laisse avec ce morceau de Calune qui dure 9 minutes mais ça vaut vraiment le coup. Il y a des très belles paroles, ça s'appelle Amour avec le A de Anarchie.
L'amour meurtri, le temps qui fait mal ou qui triche, l'horloge qu'on récupère au fond d'une poubelle de tri. J'écris l'amour dont l'homme a fait le sacrifice, quand au hasard d'un détour il a choisi de tout détruire. J'écris ma honte face au vieux cèdre, présent depuis des millénaires, dont le bois va servir à faire des étagères. L'amour pour les peuples autochtones, chassés de leur forêt par les tractopelles de Monsieur Bolloré. J'écris l'amour aux réfugiés, ceux-là même qu'on nomme les migrants, faisant semblant d'omettre que les mots sont importants. Ce sont nos guerres, nos idéaux colonialistes pourtant, ce sont leurs morts tués au nom de nos principes. J'écris le courage de celui qui se retire, au marin qui prend le large sans savoir s'il pourra revenir. J'écris demain pour celui qui résiste, le chagrin du prisonnier et le sourire de l'homme libre. Et pour ces animaux en cage, toujours beaucoup d'amour, puisque de toute leur existence, ils ne verront jamais le jour. À leurs copains dans les cirques, les élevages, les abattoirs. Mais en vouloir à ce monde, c'est en vouloir à notre miroir. L'être humain a encore tellement de choses à apprendre, parce que prendre soin de nous, c'est aussi prendre soin d'eux. Amour pour ceux qui savent que couper la viande se prononce comme couper la vie en deux. Et encore de l'amour pour ces immenses eucalyptus plantés par la main de l'homme pour en faire des prospectus. Oh,
grand arbre, est-ce une consolation? Ton bois fera du papier pour ses livres contre la déforestation. J'écris les larmes de la terre, abreuvées de pesticides, à coups de lobbies influents dans les rangs de l'hémicycle. Et jusqu'à quand la sécheresse questionne le paysan? Combien de litres de larmes pour arroser mon champ? Amour pour cette bande de copains autour d'une table ronde qui se demande comment ils pourront soigner le monde et qui décide d'agir d'abord à leur échelle. Il est un premier grain de sable qui deviendra le Sahel. Mais faire sa part ne suffit plus, mon petit colibri. Demain, il sera trop tard pour éteindre l'incendie. Je voudrais plus de cœur, je fais pas confiance aux machines. J'écris l'amour avec le A de anarchie.
J'écris le froid, le vent.
Être radical, c'est prendre les choses à la racine. J'écris l'amour avec le A de anarchie.
Je prépare aujourd'hui le plus beau de tous les défis. C'est un cadeau
cœur qui balance entre résistance et utopie. J'écris l'amour avec le A de anarchie. La force de tout quitter, leur patron, leur confort, leur petite vie bien meublée, qui se mettent en danger pour apprendre comment résister, et qui redonnent du sens au mot humanité. J'écris l'amour pour tous ces cœurs un peu perdus, exclus d'une société insipide qui ne leur ressemble plus. Amour pour ces gestes, ces attentions, ces petits riens qui font les trésors de notre quotidien. Pourquoi l'amour, je te le demande, pour tous ces produits qu'on achète qui viennent de l'autre bout du monde en avion ou par cargo, pour tout ce que l'on consomme ou bien pour tout ce que l'on rejette, pour ces décharges sauvages qui dégueulent dans le cave de peau. Pourquoi l'amour pour ces mômes qui perdent la vie dans les mines de cobalt à fabriquer mon téléphone portable? De l'amour pour notre eau potable qui nous est si précieuse et qu'on gaspille pour faire refroidir des foreuses. Y'a des usines partout, les hommes sont à genoux, les paysans de l'autre bout du monde cultivent leur blé pour nous. Alors ouais, tout ça nous semble abject, mais l'Europe a déjà perdu les 4/5 de ces insectes. Amour, 200 espèces qui disparaissent chaque jour. Amour, puisque l'on vient d'atteindre le point de non-retour. Urgence, partage, secours, réalité. Cédric Héroux condamné pour délit de solidarité. Amour, au nom de toutes ces choses qui sont impalpables, que l'on ressent avec le cœur quand on est vulnérable. L'être humain est-il réellement pardonnable? Ou sommes-nous tous victimes avant d'être coupable? Amour pour les artistes dont je croyais partager les combats, au nom de tous les rêves qu'ils ont fait naître en moi. Imaginez seulement l'ampleur de mon désarroi quand je les vois signer des pubs pour du Coca-Cola. Mais de l'amour quand même, puisqu'en offrir est un devoir à tous ces gens qui s'égarent sur le chemin du avoir. Amour pour toi camarade, je sais que tu fais ce que tu peux, que le monde est malade et que tu voudrais qu'il aille mieux. Mais voilà, ça implique des sacrifices, des choix de vie, et de comprendre que demain se construit aujourd'hui. C'est quand on aime et quand on donne, alors on s'enrichit. J'écris l'amour avec le A de anarchie.
J'écris le froid, le vent, la pluie. J'écris la douleur et l'oubli. Comme des cadeaux.
Être radical, c'est prendre les choses à la racine. J'écris l'amour avec le A de anarchie.
Je prépare aujourd'hui.
Qui balance entre résistance et utopie. J'écris l'amour avec le A de anarchie. J'écris l'amour pour tous ces mômes qui n'ont rien demandé, débarquent sur une planète fragile, déjà bien abîmée, contraint d'appartenir à une espèce suprémaciste, une espèce qui s'injecte du poison dans les racines. Pourtant l'amour est dans la plante qui se dresse avec alacrité et qui lutte, qui s'oppose à la gravité. Son combat dure chaque instant, elle le mène en silence. Regarde-la nous apprendre le sens du mot résilience. Amour pour les milliards d'humains ici présents, nous qui nous sommes multipliés par 7 en 120 ans. Mais les richesses de l'Occident sont source de souffrance. Ailleurs, on exploite l'autre au nom de notre croissance. Les peuples sont asservis, étouffés par la misère.
La Méditerranée est devenue le plus grand des cimetières. Et pour tout ça l'amour, pas sûr que ça suffise. Un grand singe meurt quand un enfant mange un Kinder Surprise. Y'a plus d'oiseaux nulle part, ni sur les branches ni dans les cieux. Avec le temps les printemps sont devenus silencieux. On voulait vivre en harmonie, perpétuer les rituels. Mais à Paris on peut déjà louer des robots sexuels. J'ai créé l'amour pour notre gène et tout est président. Au nom de tous les riens, au nom de tous les feignants, je vous souhaite d'être heureux, monsieur, de tout mon cœur. De connaître le bonheur simple d'un jardin qui change de couleur. De vous éloigner des chiffres et de retrouver l'équilibre. Le seul moyen d'être libre, c'est de faire partie du cycle. Les paroles en plastique finissent à la poubelle. Au mieux, on les retrouvera dans l'estomac d'une baleine. On est d'accord sur un point, la vie est terriblement belle. Mais y'a peu de chance qu'on change le monde à coup d'action individuelle. Alors, unissons-nous et détruisons ce système. C'est aussi ça l'amour, c'est pas seulement des je t'aime. Nous sommes les derniers hommes à pouvoir décider de dire non à leur idéal, non à leur puce RFID. Nous sommes les tout derniers, ouais. Désolé d'insister, mais demain il sera trop tard pour résister. Alors rassemblons-nous, tentons de faire le bien. Puisque c'est sans doute ce dont le monde a le plus besoin au fond. Et parce que je ne crois plus aux autres solutions, j'écris l'amour avec le R de la révolution. Être radical, c'est prendre les choses à la racine. J'écris l'amour avec le A de anarchie.
Je prépare aujourd'hui le plus gros de tous les défis. C'est un cadeau.
Cœur qui balance entre résistance et utopie. J'écris l'amour avec le A de anarchie. Alors j'écris l'amour, le cœur surchargé de peine. Puisque même dans l'alphabet M est à côté de N.
J'écris le froid, le vent, la pluie. J'écris la douleur et l'oubli. Comme des cadeaux de la vie. Demain se prépare aujourd'hui.